Madame, monsieur, bonsoir.
Jusqu'alors, nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas.
Le radar a été perdu vers 19h à la hauteur du Mont Saint-Odile, près de Strasbourg.
Et sur le mur, écrit avec des lettres de sang, Omar, le nom du jardinier.
Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
Fait d'hier.
Le temps vous semble long et vous croyez, vous voyez le moment où vous allez partir comme les autres qui criaient là-haut, enfin qui ont crié à un moment donné, qui criaient plus, parce que ça s'est tué finalement.
Chaque mois, Femme Actuelle Senior vous replonge dans une affaire qui a défrayé la chronique. Revivez les événements comme si vous y étiez et découvrez le fin mot de l'histoire. Dans cet épisode, le crash du Mont Saint-Odile, un enfer sans fin. À 19h09, le 20 janvier 1992, le vol 5148 en provenance de Lyon entre en contact avec la tour de contrôle de l'aéroport de Strasbourg. C'est une soirée d'hiver. Les températures sont négatives et la visibilité quasi nulle. Compte tenu de sa vitesse d'approche, le commandant de bord estime qu'il ne peut pas atterrir directement. Il entreprend donc une large boucle, selon la procédure habituelle. Le contrôleur l'informe qu'il devra patienter un moment, car trois avions sont sur le point de décoller depuis l'aéroport. Les passagers, eux, ignorent tout de la manœuvre en cours. À 19h19, l'A320 a effectué sa boucle, et le contrôleur autorise l'approche finale. L'avion amorce sa descente. Ni les pilotes, ni les contrôleurs ne détectent la moindre anomalie. Pourtant, une minute plus tard, soudain, la communication s'interrompt et l'avion disparaît des écrans radar. Que s'est-il passé? Nul ne le sait. L'appareil s'est écrasé à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg, sur le sommet de la colline de la Blosse, près du Mont Saint-Odile. L'impact a lieu à 800 mètres d'altitude, dans une zone isolée, en pleine forêt. L'avion a fauché les sapins sur près de 200 mètres. Le choc est terrible. Sur les 96 personnes présentes à bord de la 320, 11 seulement ont survécu. Les rescapés parviennent, tant bien que mal, à s'extirper de la carcasse en flammes et trouvent refuge sous les arbres.
J'étais sur la dernière rangée de l'avion. En revenant vers l'arrière, il y avait une coupure, je pense, de l'arrière avec la partie centrale. Je me suis retrouvé dans le vide et dans la nature, en pleine neige. J'ai commencé à sauter sur les branches et les débris pour essayer de me sauver un peu. Et puis j'ai retrouvé le camarade qui est dans ma chambre à côté avec un enfant de 8 ans. On s'est éloigné, puis on est revenu un peu sur les lieux parce que bon, au fur et à mesure, il y avait quelques survivants qui apparaissaient. Au début, on réalisait pas tellement, on se disait que bon, ça a été quand même un accident. On était heureux d'être survivants et on pensait que le secours allait venir, que le cauchemar allait s'arrêter. Bon, bon, ça a pris quand même une tournure un peu différente après, puisqu'on...
Vous avez attendu combien de temps?
4h30.
Combien de vos secours?
Ouais.
Ça doit être long, non?
Assez long. D'autant plus que... Ah, on pense qu'on pouvait périr dans le froid quand même. Hein.
Romain, alors âgé de 8 ans, témoignera quelques heures plus tard.
Comment t'as pu sortir de l'avion?
C'est Pierre qui m'a aidé.
Comment il a fait?
Il a senti tout et puis il m'a aidé à sortir. On est parti à 200 mètres, 100 mètres. Puis après on a entendu plein de pétards, puis 2 heures après, ils ont explosé pas, alors on est allé près de l'avion pour se réchauffer.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les sauveteurs, quand ils sont arrivés?
Qu'ils allaient nous ramener. Effectivement, ils nous ont ramenés là-bas. Moi, j'étais content qu'ils soient venus nous chercher. Je me suis dit que c'était pas trop tôt quand même. D'habitude, je serais bien dans l'avion. Puis rien se passe et puis cette fois-ci il y a eu un grand accident.
Tu penses que c'est des choses que tu oublieras jamais?
Oui, peut-être. Peut-être que je l'oublierai. Ce serait mieux que je l'oublie.
Blessés, frigorifiés, les miraculés vivent un véritable calvaire. Par cette nuit d'hiver, il fait moins 5 degrés. Ils allument un feu, récupèrent des couvertures, des vêtements éparpillés dans la neige. Pendant plus de 3 heures, au milieu des débris et des corps, ils vont attendre en vain les secours dans l'obscurité et un froid glacial. À l'aéroport de Strasbourg, pour les familles et les proches des passagers, la joie des retrouvailles à venir a laissé place à l'angoisse. À peine 10 minutes après la disparition de l'avion des écrans radars, le préfet déclenche le plan de sauvetage. Des centaines d'hommes sont mobilisés. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu.
400 hommes sont mobilisés. Au cours de la nuit, ils seront 1000. Gendarmes, militaires, pompiers, médecins et volontaires. Des moyens de détection aérien sophistiqués vont les aider. 3 hélicoptères et un Mirage F1 équipés de caméras à infrarouge. Malgré tout ce déploiement, il faudra plus de 4 heures pour enfin localiser l'avion.
Le crash a détruit la balise de détresse située à l'avant de la 320, qui est censée émettre un signal donnant sa position. Et un épais brouillard empêche les hélicoptères de localiser le site. De plus, la zone délimitée est bien trop étendue et difficile d'accès pour que les recherches aboutissent rapidement. L'opération de secours s'annonce ardue.
Nous avons déterminé des carrés de 3 km de côté, dans un massif tel que celui que vous connaissez, que vous voyez ici, extrêmement difficile d'accès de nuit, surtout dans les conditions météorologiques que nous avions hier soir.
Une trentaine de patrouilles de gendarmerie se dispersent dans un territoire encaissé, boisé et enneigé. Mais c'est finalement 2 habitants des villages alentours qui vont réussir à repérer le lieu de la catastrophe, guidés par des odeurs de caoutchouc brûlé et de kérosène. Ils découvrent les premiers rescapés vers 22h15, tandis que les secours, eux, se font toujours attendre. Il faut dire qu'à cette époque, les téléphones portables n'existent pas. Les informations, souvent contradictoires, circulent mal. Et les autorités mettent longtemps à les analyser, trop longtemps.
Les premières informations qui nous sont communiquées attestent qu'il y a des survivants. Nous n'en connaissons pas encore le nombre et nous ne savons pas encore leur identité.
Peu avant 23 heures, les premiers gendarmes mobiles arrivent enfin sur place. Ils ont dû marcher 20 minutes dans la nuit et une épaisse couche de neige sur un sentier forestier escarpé et glissant. Les services médicaux d'urgence, eux, restent coincés en contrebas sur la route départementale. Des embouteillages causés par les badauds venus en masse perturbent la circulation des véhicules. En haut, on manque de tout. Faute de matériel, les médecins militaires doivent parer au plus pressé et se limiter à administrer des soins d'urgence minimaux. Entre 23h20 et minuit 15, soit 4 heures après l'impact, les blessés sont finalement évacués dans la plus totale improvisation. Ils sont transportés à la main ou sur des brancards de fortune. 2 rescapés ne survivront pas à leurs blessures et décéderont au cours de la descente. À 1h30 du matin, enfin, les victimes sont toutes acheminées vers les hôpitaux de la région.
À l'aéroport de Strasbourg, c'est l'insoutenable attente, la détresse de ceux qui ne veulent pas penser au pire.
Pendant ce temps, à l'aéroport de Strasbourg, la détresse est à son comble. Les minutes durent des heures pour les 200 personnes qui attendent dans l'angoisse. Les informations sont rares, mais laissent encore un peu de place à l'espoir. Vers 4h30 du matin, le couperet tombe. Un responsable d'Air Inter annonce aux familles effondrées le bilan définitif de la catastrophe. 82 passagers et 5 membres de l'équipage, dont les 2 pilotes, ont trouvé la mort. Puis il donne le nom des 9 miraculés. Adolphe Reich, Nicolas Courias, Jean-Noël Châtre, Pierre Lotta, Romain Duclos, un enfant de 8 ans, Laurence Bonneteau, Claude Coana et sa fille de 13 mois, Mélissande, et enfin Valérie Monnier, seule hôtesse survivante.
Bonsoir, le drame pour les uns, le miracle pour d'autres. À 18h25 hier, à l'aéroport de Lyon-Satola, 96 personnes prenaient place à bord de l'Airbus A320.
87 morts dans le crash.
Depuis 9h ce matin, 200 secouristes, gendarmes, militaires s'affairent toujours.
Il y avait à bord de cet Airbus A320 90 passagers et 6 membres d'équipage. À vol donc de ce vol 5148 qui était parti très normalement.
Quelques heures plus tard, la France entière découvre le terrible bilan humain de cette tragédie. Très vite, l'opinion publique demande des explications. Elle s'indigne de la désorganisation des secours qui n'a pas échappé à l'œil des journalistes parvenus sur le lieu du crash. Le lendemain, le 21 janvier 1992, Paul Quillès, le ministre des Transports, prend publiquement la parole et demande que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cet accident.
Je souhaite que cette enquête soit menée rapidement, avec minutie et dans la transparence la plus complète.
De leur côté, les familles des disparus se mobilisent. Dès le 4 février 1992, le dessinateur Tommy Ungerer, dont la sœur est décédée pendant le drame, fonde l'association ECHO, entraide de la catastrophe des hauteurs du Saint-Odile. Son but, rassembler les proches des défunts, mais aussi exiger des réponses. Aurait-on pu éviter tout ça? Pendant 2 ans, un comité d'experts tente de reconstituer le déroulement de l'accident. Le 26 novembre 1993, il rend son rapport. C'est le premier d'une longue série de documents qui se contrediront entre eux et n'apporteront jamais le fin mot de l'histoire. Selon les experts, l'A320 a amorcé sa descente alors qu'il n'était pas tout à fait aligné dans l'axe de la piste, obligeant les pilotes à réajuster leur trajectoire. Ce genre de situation, quoiqu'un peu délicate, ne pose normalement pas de problème majeur. L'avion était d'ailleurs presque réaligné quand il a heurté les reliefs vosgiens à une vitesse de 350 km/h. Sans que les pilotes n'aient visiblement tenté aucune manœuvre pour les éviter. Ils n'ont sans doute pas eu conscience, jusqu'au dernier moment, de la proximité du sol. Mais comment l'expliquer ? Au cours de l'instruction, 2 thèses principales s'affrontent : l'erreur humaine et la défaillance de l'appareil. La première théorie met en cause les pilotes. Concentrés sur le réalignement horizontal de l'appareil, ils auraient négligé de surveiller leur position verticale. Les enquêteurs dénoncent d'ailleurs le manque de dialogue entre les 2 hommes qui volaient ensemble pour la première fois. Des témoins les auraient sentis tendus. Pire, les experts soulignent un relâchement de l'attention de l'équipage pendant la phase de guidage radar. Mais pour les familles des victimes, cette explication ne tient pas la route. Les membres de l'association ECHO, épaulés par des experts, signalent de leur côté plusieurs défaillances techniques. En premier lieu, ils s'interrogent sur l'absence dans le cockpit d'un système GPWS. Installé dans beaucoup d'avions de l'époque, ce dispositif est conçu pour déclencher une alarme lorsque l'appareil s'approche trop près du sol. Seulement voilà, en 1992, la compagnie Air Inter n'en équipe pas sa flotte, car plusieurs pilotes se sont plaints de sonneries intempestives. Dans son rapport, la commission d'enquête admet que cette absence a privé l'équipage de l'A320 d'une dernière chance d'alerte.
Concernant l'hypothèse des défauts techniques de l'A320, les débats portent notamment sur le système VOR qui permet l'alignement de l'avion dans l'axe de la piste. Système mis en cause car les pilotes ont suivi dans leur approche finale une trajectoire trop intérieure. Également en cause, la conception du tableau de bord. Un même bouton et une même molette permettent de régler soit la vitesse, soit l'angle de la descente. Toute confusion entre ces 2 modes est forcément fatale.
Toutes ces hypothèses accablent le constructeur de l'avion, Airbus. Mais accuser l'A320 revient à s'attaquer frontalement au fleuron de l'industrie européenne. Ce qui n'empêche pas l'association ECHO de partir en croisade, pendant presque 2 décennies, contre le géant de l'aéronautique. Les membres d'ECHO n'en démordent pas. L'A320, un avion informatisé et automatisé, mis en service depuis 10 années à peine, a provoqué l'accident qui a emporté leurs proches.
L'ordinateur dans cet Airbus A320 a une telle place, joue un tel rôle, que certains pilotes se posent des questions sur sa fiabilité.
Une autre question, l'A320 a subi trois crashs en 4 ans. À Psheim, en juin 88, un premier accident intervient lors d'un vol de démonstration, bilan 3 morts et 50 blessés. En février 90, deuxième accident à Bangalore, dans le sud de l'Inde. Trois accidents qui, chaque fois, se sont passés dans des phases d'atterrissage et qui soulèvent ce soir donc des interrogations sur l'appareil d'Airbus Industrie.
Dans un communiqué, l'association accuse Airbus d'avoir pris le risque de mettre en vente un appareil sans s'être rendu compte de ses imperfections. Seulement voilà, il n'est pas facile d'affronter un groupe aussi puissant. D'autant plus qu'Airbus a l'ambition de détrôner Boeing, son concurrent américain. Echo se heurte rapidement à l'armada d'experts et d'avocats mobilisés par l'avionneur européen. Le dossier est tellement sensible et ses enjeux si importants que l'enquête n'en finit pas de s'enliser. Rapports, expertises et contre-expertises s'accumulent, tandis que les familles attendent toujours des réponses.
C'est quelque chose qui est assez horripilant, de croire que si l'avion est tombé, c'est à faute à pas de chance. Eh bien non, il y a des responsables. Je ne demande pas à ce qu'ils partent en prison ou qu'ils purgent certaines peines, mais je demande à ce qu'ils rendent... qui disent la vérité et qui disent ce qui a pu se passer, les problèmes qu'il y a pu avoir.
En 2001, 9 ans après le crash, toujours pas de procès à l'horizon. L'association Echo dépose une plainte contre l'État français pour durée excessive de la procédure pénale. Mais elle est déboutée. Aux yeux de la justice, malgré la longueur de la procédure, il n'y a aucun dysfonctionnement.
Les gens sont ouverts, vous pouvez vous asseoir. Laissez passer, s'il vous plaît, les personnes qui veulent.
Le 2 mai 2006, le procès s'ouvre enfin, 14 ans après la catastrophe. La salle du tribunal correctionnel de Colmar a été spécialement aménagée, avec 700 sièges et 4 grands écrans. Il faudra 2 mois de délibération d'une haute technicité pour aborder tous les aspects du dossier. Dans une ambiance tendue, 350 parties civiles sont réunies, amis ou familles des victimes. Face à elle, les représentants d'Airbus et d'Air France, qui a entre-temps fusionné avec Air Inter, comparaissent pour homicide et blessure involontaire. Parmi eux, Bernard Ziegler, directeur technique d'Airbus Industrie au moment des faits et concepteur de la 320, se défend bec et ongles. Il soutient mordicus la version de l'erreur humaine.
C'est un équipage qui n'a pas suivi ses procédures. Voilà. Je ne fais pas d'accusation, je dis les faits sont là.
Le verdict tombe le 7 novembre 2006. Sur le plan pénal, tous les prévenus sont relaxés. Au civil, en revanche, Air France, Airbus et son représentant Bernard Ziegler sont déclarés responsables des dommages occasionnés aux victimes. C'est la première fois en France qu'une compagnie aérienne et un constructeur sont condamnés au civil. L'association Echo se voit allouer une indemnité d'un montant de 500 000 euros.
Colère et emportement du relaxé Bernard Ziegler.
Qu'est-ce que c'est que ces pleurnicheries? C'est pas ça, on fait un avion très sûr, remarquablement sûr, le plus sûr du monde. Et on traîne Airbus devant le tribunal, vous trouvez ça normal?
Airbus se réserve le droit de faire appel après examen du jugement.
Mais il est encore trop tôt pour crier victoire. Quelques jours plus tard, le parquet fait appel et la bataille judiciaire reprend. Un second procès s'ouvre le 16 octobre 2007. Les audiences vont durer 7 semaines. Echo réclame cette fois-ci 1 200 000 euros. Une indemnisation infiniment raisonnable aux yeux de l'avocat de l'association. La justice, cependant, n'est pas de cet avis. Le 14 mars 2008, deuxième jugement. Non seulement les prévenus sont à nouveau relaxés au pénal, mais la responsabilité civile d'Air France et d'Airbus n'est même plus engagé. Bernard Ziegler se réjouit.
L'honneur d'Airbus est entièrement lavé. On s'est battu pendant 15 ans pour ça. Je peux être satisfait.
Chez les proches des victimes, en revanche, la déception est immense. Ultime camouflet, la Cour annule l'indemnité attribuée en première instance. Le président de l'association, Alvaro Randon, s'indigne face aux caméras.
On est doublement, triplement victime. C'est ça, après, c'est ça. C'est ça. Cet avion était parfait. Personne. Notre pays est une merveille. Vous allez pouvoir vendre tous les A380, même au gouvernement américain. Allez-y, allez-y. Mais ils iront sur nos 87 victimes et nous tous qui sont derrière.
Mais il en faut plus à ces tenants de la vérité pour se résigner. Ils continuent leur action. Et le 8 septembre 2009, Écho dépose un pourvoi en cassation. Il est débouté à son tour. Une seule instance peut désormais remettre en question la décision de la justice française, la Cour européenne des droits de l'homme. Mais le combat est perdu d'avance. Après 17 ans de poursuites judiciaires et une bataille éreintante, les familles des victimes finissent par rendre les armes. Elles ne renoncent pas, en revanche, à leur devoir de mémoire.
Chaque année, je me dis que c'est peut-être du passé, que les émotions, c'est as, mais c'est pas vrai.
Le 22 janvier 2017, 25 ans après le drame, elles se réunissent autour de la stèle érigée sur le sommet de la colline de la Blosse, où sont gravés les noms de leurs disparus. L'association Écho existe toujours. Ses membres ont prévu de se retrouver en 2022 pour la commémoration des 30 ans de la catastrophe. Je peux regarder les enfants des victimes, les yeux dans les yeux, et leur dire que nous nous sommes battus, déclarait Alvaro Rendon, l'emblématique porte-parole d'Écho au micro d'Alsace 20.
Vous savez, les liens que nous avons tissés entre nous, que les enfants ont tissés entre eux, ne vont pas s'effacer comme ça. C'est justement ces combats pour que cette vérité soit reconnue, qui nous a unis, et je crois que c'est des liens qui ne se dissout pas simplement parce que la justice n'a pas fait son travail.
Le combat d'une petite association contre un géant de l'aéronautique. Il aura fait émerger des responsabilités, mais n'aura désigné aucun coupable. Le crash d'un A320 sur le Mont Saint-Odile, un soir de janvier 1992, n'empêchera pas la réussite commerciale de l'appareil. Deux ans plus tard, pour la première fois de son histoire, Airbus vendra plus d'avions que Boeing, son grand rival américain. Ce texte, écrit par Thibaut Panis et adapté par Christine Ivaren, a été enregistré par Anne-Vincent Signy, mixage de Lucas Vibo. Merci de nous avoir écoutés. Nous attendons vos réactions, vos commentaires. N'hésitez pas à noter sur les plateformes. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Fait d'hier.